pour inventer le passage à la ligne, il y a des livres qui feraient des kilomètres de large. Dixit, le chat.
Pascal Paradou.
22, voilà le chat, son humour, ses aphorismes et sa philosophie de l'absurde. La rumba du chat est le 22e album de Philippe Guéluc qui a fait de ce matou un héros international de bande dessinée traduit dans une quinzaine de langues. Bonjour Philippe Guéluc.
Bonjour Pascal Paradou.
Comment dit-on miaou en anglais, allemand, wolof ou chinois, est-ce que vous savez?
Alors je pourrais vous le dire, j'aurais pu. Je suis incapable de vous répondre puisque le chat, mon chat ne dit jamais miaou. Il parle comme vous et moi. Et puis là, sur la traduction chinoise, farsi ou arabe, je suis incapable de vous dire la prononciation exacte.
Mais pourquoi ne dit-il pas miaou? Parce que tous les chats font miaou.
Ah ben oui, mais sauf lui. Les chats s'appellent Minou, Mistigri ou Passepartout. Lui, il s'appelle le chat.
Sans fioriture.
Il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom. Enfin, si, on peut dire que son prénom, c'est le, et que son nom de famille, c'est chat, mais c'est tout. Il ne miaule pas parce qu'il est, en fait, mais cela ne vous aura pas échappé, il est un être humain déguisé en chat.
Mais alors, pourquoi le chat? Pourquoi ne pas lui avoir rajouté quelque chose? Alors, bon, Félix s'était pris, Félix ouais. Le chat, c'est une BD américaine des années 20, mais vous auriez pu lui trouver des petits surnoms, des... Mmh. Non, le chat.
Un jour, je l'ai appelé Ramina Grobide. Parce qu'il était en maillot de bain et je trouvais que ça lui allait bien. Mais pour lui, il est le seul qui compte. Il est très autosatisfait. Donc le chat, majuscule à le, majuscule à chat, il est content.
Alors j'ai découvert dans le dictionnaire historique de la langue française, vous savez, du formidable Alain Rey, l'origine du mot chat. Est-ce que vous la connaissez?
Alors moi, je la situerais dans l'Égypte, dans la basse Égypte. Ça devrait être, c'est la force, le ka, non?
Qui est, non, bah, c'est pas ce que dit ça. Alain Rey. Alain Rey dit que le mot chat vient du latin tardif, donc 1200 à peu près, et que le mot viendrait probablement d'une langue africaine, car le berbère et le nubien ont des termes assez proches.
On n'est pas loin de l'Égypte, de la Haute Égypte.
Hein. On n'est pas loin de la Haute Égypte, tout à fait, mais le bas Moyen Âge, c'est pas tout à fait la Haute Égypte.
Je comprends. Mais enfin, vous savez, de génération en génération, il y a des choses qui échappent à Alain Rey.
En tout cas, je veux bien que les auditeurs qui nous écoutent nous éclairent s'ils connaissent les noms en berbère ou en nubien. En tout cas, cela permet plein de jeux de mots. Le chat, le chatouille, Inch'Allah, vous vous en privez pas.
Le chateaubriand, le chat pardeur, eh bien si, je m'en prive. Et savez-vous pourquoi? Parce que mon ami et maître Ciné a fait ça dans les années 50, magistralement. Et je me suis donc interdit d'évoquer à aucun moment dans mes 14 000 dessins publiés la consonance « chat » dans un jeu de mots. Je pratique d'ailleurs le jeu de mots beaucoup moins qu'on ne veut le laisser entendre. J'ai utilisé cette consonance dans un seul titre de mes 22 albums, c'était « Et vous, Chava ?» Et le chat répondait « Super, merci
voilà. ». Alors, vous me dites cela, Philippe Guéluc, mais j'ouvre cet album qui est sur la table de ce studio et je lis toute une série de formules. Je n'ai rien inventé, notamment Inch'Allah.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est les titres que je me suis interdit de faire. Alors, entre ce que je m'interdis de faire et ce que je fais, pardonnez-moi, mais il y a une certaine marge.
Alors, en tout cas, il y a plein d'expressions populaires quand même autour du mot chat.
Ah oui.
Donner sa langue au chat.
Absolument.
C'est assez mystérieux. Ou alors, il n'y a pas un chat.
Oui.
Ça, c'est étonnant.
C'est bizarre. Hein,
pourquoi?
Oui.
Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus?
S'entendre comme chien et chat. Bon, là, on comprend.
Oui. Là, on peut comprendre.
On comprend plus aisément. Alors, il n'y a pas un chat. Est-ce que ça veut dire que l'endroit est si peu bien famé que l'on n'y trouve personne, puisqu'on dit que les chats ont une sensibilité particulière qui les fait fuir les importuns et les endroits qui comporteraient des mauvaises ondes? C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas Alain Rey. Hein.
On va demander à Alain Rey, tout chat pour chat. Alors ça, c'est un peu à la Giscard avec une patate dans la bouche. Il a quel timbre, votre chat, qui ne miaule pas mais qui parle tant?
Alors dans la série de dessins animés, c'est Jean-Yves Lafesse qui lui a prêté sa voix. Mais un dessin animé et une voix sur un personnage de bande dessinée fera toujours des déçus. J'ai entendu un jour Hergé raconter qu'il avait reçu une lettre d'un jeune lecteur qui, ayant vu son dessin animé au cinéma, lui a dit « Monsieur, j'ai été un peu déçu par le film parce que au cinéma, le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les livres. » Et je trouve que ça dit tout.
Votre chat, le chat, a été inventé il y a 35 ans. Ouais. C'est son 22e album, mais ça fait 35 ans que vous vivez avec lui. C'est quand même vieux pour un chat, c'est plus tout à fait un minet.
Non, surtout qu'on a multiplié par 7, dit-on. Mais oui. Ça fait, il pourrait s'appeler Mathusalem, puisque vous me demandez tout à l'heure si je lui avais pas donné un nom. 35 ans, oui, 1983 exactement, naissance de ce chat. Au moment où je l'invente, j'ai le sentiment d'avoir griffonné quelque chose qui sera important pour moi. Je n'en ai pas, ou je n'ai aucune certitude, j'en ai juste l'intuition. L'avenir me donnera raison.
Donc ce n'est plus tout à fait un minet, c'est plutôt un matou. C'est incroyable le nombre de petits noms comme ça qui sont utilisés pour parler de cet animal. Et je sais d'ailleurs que vous avez donné votre nom à certains chats. Certains chats dans le monde s'appellent Géluc.
Oui, particulièrement en Belgique. Des gens s'amusent à, puisque je suis belge, que le chat est né en Belgique, on appelle, dans des familles, on a appelé le chat Geluc. Et un jour, j'ai reçu une lettre très mignonne de gens qui me disaient que les enfants avaient posé aux parents la question de savoir si, dit papa, quand Geluc sera mort, est-ce qu'on prendra un chien? Voilà, c'est amusant, brave petit salopard.
Pour tout savoir sur le chat sans avoir osé le demander, Philippe Géluc est aujourd'hui notre invité, mais on passe d'abord par la case refuge, extrait du dernier Jean-Louis Aubert.
Ne cherche pas refuge ailleurs, sois une île pour toi-même. Ne cherche pas refuge ailleurs, sois une île pour toi-même. Pour tous ceux qui t'aiment, où est le problème? Aime comme tu aimes et comme l'enfant.
Jean-Louis Aubert sur RFI avec la sortie de son nouvel album, le 9e, tout comme Philippe Géluc pour ses nouvelles histoires du chat, 22e. Cette fois, là, vous gagnez, mais j'en déduis aussi que faire un album de bande dessinée est peut-être plus facile ou plus rapide que de faire un album de musique.
Oh, mais comme vous êtes mauvais esprit, tout à coup, je ne sais pas. Non, parce qu'on pourrait dire, au fond, la musique, oui, je ne sais pas. Est-ce que les notes dans une chanson, c'est comme la couleur dans un dessin? Je ne sais pas. Le texte, c'est le texte, évidemment. Non, je ne sais pas. On n'est pas concurrent, on n'est pas, c'est pas celui qui en fera le plus. Rien ne garantit qu'un artiste qui sort 60 albums est plus important qu'un autre qui en aura fait que 6. Le tout, c'est l'intensité, la qualité, l'intention.
En même temps, cet album-là, Philippe Geluck, s'appelle La Rumba du chat. Donc, il y a de la musique dans cet album de bande dessinée, même s'il n'est pas particulièrement question de danse.
Oui, non,
ou de musique,
pas du tout.
Hein. C'est un titre prétexte.
Un prétexte, absolument. Vous aurez remarqué qu'aucun de mes titres n'a de rapport avec l'intérieur du livre, sauf peut-être le premier, qui s'appelait Le chat. Très sobrement, et il était question du chat dans l'album. Mais là, j'en ai appelé un le chat à Malibu, jamais il traverse l'Atlantique. Un autre, le chat au Congo, il ne met pas le pied sur le continent africain. Donc la rumba du chat, c'est plutôt... vous savez que c'est aussi en pensant à la chanson d'Alain Souchon que j'y ai pensé. Il y a de la rumba dans l'air, parce que c'est un peu mon état d'esprit aujourd'hui, face à une société tourmenté, un monde qui va mal. Moi, je continue à chantonner et le smoking de travers, à essayer de faire des claquettes pour distraire mes contemporains.
Alors, comment se conçoit un album du chat comme celui-ci, sachant qu'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas un début, un milieu, une fin, c'est plutôt une série de propos, de gags, de pensées qui, pour certaines, sont un peu aigre-douce, oui. Des fois totalement loufoques, et on peut à la fois sourire et éclater de rire en lisant l'album.
Oui. La construction est à peu près la même depuis toujours, c'est-à-dire que j'essaye de proposer un album sur 48 pages qui soit varié, qui soit surprenant, qui ne soit pas thématique, parce que rien ne deviendrait plus ennuyeux que d'entendre le chat nous parler d'un sujet du début à la fin du livre. D'autres font ça très bien, mais moi, c'est pas mon truc. J'ai envie qu'on ait l'impression de zapper sans devoir pousser sur les différents boutons. Moi, je zappe pour le lecteur. Et on passe d'une pensée profonde, sérieuse, voire inspirante, à un gag complètement crétin, à une gravure détournée qui est limite un peu vulgose, etc. Et le rire naît aussi de la surprise de tomber de Charybde en Scylla et Charybde. Pas Charybde.
Charybde, oui.
Oui, Charybde.
Et pas syllabe.
Non,
mais vous avez bien dit, c'est moi qui entendais syllabe, parce que vous voyez, la langue.
Voilà, oui, bien sûr.
Cela suppose en tout cas, ce type d'album, d'être toujours percutant.
Je l'espère.
C'est l'art de la nouvelle, c'est-à-dire une attaque, une chute. Et la chute est plus importante que que l'attaque.
Absolument. Le tout. Alors, les réactions sont formidables. Il y a des gens qui connaissent très bien le chat et qui me disent, c'est ton meilleur. Et un autre à côté qui ajoute, oui, il t'en aura fallu 21 pour arriver à en faire un qui soit convenable.
Mais comment vous les trouvez, ces gags, ces formules? Est-ce que c'est vraiment, ça vous prend énormément de temps ou c'est tout d'un coup une intuition, une situation vous fait réagir?
C'est que ça. C'est une intuition, c'est une fulgurance, c'est à chaque fois un petit miracle. Alors parfois, je dois me creuser les méninges pendant 5 minutes pour que le miracle se produise, mais il arrive toujours. Avec cette part d'angoisse qui m'habite entre le très bon gag que je viens d'inventer et le suivant, s'il n'arrive pas tout de suite. Je me dis peut-être que c'est fini, peut-être que le puits est à sec et qu'il n'y aura plus jamais rien. Et puis pouf, il y a une idée rigolote qui arrive. Mais en tout cas, ce n'est jamais pénible et ce n'est jamais tortueux. Ça vient sous la forme que vous découvrez en lisant et comme une évidence.
Avec des premiers, deuxièmes, troisièmes degrés, parfois. Et puis pas mal d'autodérision, on ne sait plus trop si c'est le chat qui fait de l'autodérision ou si c'est vous d'ailleurs.
Oui, enfin un jour j'ai dit je fais de l'autodérision par personne interposée, ce qui est un peu lâche tout de même, parce que c'est lui qui finalement en prend. Mais au fur et à mesure j'ai commencé à me dessiner aussi, à m'inclure dans certains de ses dessins, donc pour en prendre un petit peu aussi dans les dents et que ce ne soit pas que lui, mais l'art de l'autodérision est pour moi... L'article premier de la Convention universelle des humoristes, c'est-à-dire que je pense que si quelqu'un est capable de rire de lui-même, cela lui donne le droit ensuite de rire des autres. Dans l'autre sens, c'est peut-être moins délicat parfois.
Mais vous vous cachez donc de moins en moins derrière le chat.
Oui, j'assume totalement. Il m'arrive de dire des choses pires que lui. C'est peut-être l'âge aussi qui me donne à la fois ce devoir et ce droit. C'est de dire, si je n'ouvre pas ma gueule maintenant, quand est-ce que je le ferai?
Le chat, 22 albums au compteur et quelques séquences animées avec la minute du chat.
Hey, oh, ça fait chier. Je regardais l'autre chaîne, ils sont beaucoup plus drôles que moi. J'ai trouvé un truc super pour planquer mon pognon à l'étranger, sans bouger de chez moi. Je fais passer mon argent en Suisse, par fax. Pas con, le mec. Le gars le plus drôle du monde, c'est moi. Et si c'est pas vrai, que je sois changé en enclume. Je suis en tout cas l'enclume la plus drôle du monde. Et hop.
Philippe Guéluc, vous parliez tout à l'heure, nous parlions tout à l'heure de la voix du chat et vous citiez Jean-Yves Lafesse. Voilà, c'est sa voix. Lafesse étant un animateur radio qui a accompagné l'émergence des radios libres dans les années 80, qui était connu pour ses canulars téléphoniques et qui est par définition aujourd'hui un comédien toujours un peu punk, un peu libertaire et le contraire du bien-pensant. Donc vous avez dû faire une bonne équipe.
Ah, on a adoré travailler ensemble. Je trouvais qu'il incarnait parfaitement le chat. Maintenant, moi, mon avis importe, certes, mais c'est l'avis du spectateur ou de l'auditeur qui peut porter un jugement définitif. Et c'est comme je vous disais, c'est très, très, très compliqué. Il y a des gens qui me disent qu'il ne faudrait pas du tout le faire parler. Moi, je pense que c'est bien parce que le dessin animé porte souvent à la connaissance d'un beaucoup plus grand nombre une œuvre qui serait restée plus confidentielle. Moi, j'ai la chance d'être beaucoup lu, mais c'est vrai qu'une présence à la télé peut agrandir encore l'audience.
Alors, 7 minutes du chat, on en dit deux mots, ça a été produit par France Télévisions. Il y a eu très très peu d'épisodes diffusés, même s'il y a eu pas mal de produits. Et vous avez quand même fait la preuve que cet animal qu'on peut décrire un tout petit peu, qui est à peu près aussi large que haut, qui a des oreilles pointues, un gros museau et un teint un peu gris, souris, si j'ose dire, était hyper statique.
Oui.
Dans l'album et hyper mobile dans le dessin animé.
Absolument, parce qu'il fallait du dessin animé. À un moment, dans un des sketchs, il dit même que ça coûte cher l'animation. Donc il éteint la lumière et il dit chaque minute ou chaque seconde d'obscurité, un soulagement pour la production qui ne doit pas payer de mouvement. Et bon, il casse la pile d'assiettes qu'il était en train de porter.
C'est très chat, ça. Hein.
Absolument, c'était une aventure magnifique. Et malheureusement, France 2, qui a coproduit avec la RTBF, avec la Suisse, etc., la série a arrêté la diffusion pour des raisons un petit peu glauques. Voilà, il y a le responsable de l'époque qui est mort d'un cancer foudroyant, il a été remplacé par un autre qui a flanqué le projet à la poubelle. J'en suis désolé, cette série existe toujours et j'espère qu'elle revivra.
On peut voir quelques épisodes sur Internet aujourd'hui. Alors, de ce 22e album, Philippe Guéluc, on ne va pas citer tous les gags car il y en a beaucoup et on ne va pas non plus nommer tous les strips, c'est ce mot un peu horrible, pas très francophone pour parler de trois cases les unes à côté des autres. Mais voilà, quelques-uns comme ça. Ah, cette fois, ça y est, ma femme a arrêté de fumer. Et la troisième case, il devrait m'apporter l'urne dans quelques minutes. Un peu dur, non ?
C'est un peu grinçant.
Ouais, c'est un peu grinçant.
Mais en même temps, alors ça, c'est inspiré de deux choses. C'est que ma femme, à moi, n'est pas morte. Donc, j'ai pas dû la faire incinérer. Et en même temps, elle avait arrêté de fumer. Donc, j'ai mêlé les deux informations et ça a donné ce gag.
Si la fonte d'épaule avait eu lieu 120 ans plus tôt, le Titanic serait arrivé à destination.
Oui. Comme il dit aussi que si Mike Brandt avait habité au rez-de-chaussée, il chanterait encore.
Donc ça ne veut pas dire qu'il est climato-sceptique, le chat,
ah non.
À propos du Titanic. Hein. Non, pas vraiment.
Ah ben non, il est très engagé dans l'écologie. Il parle à un moment des espèces menacées et il dit simplement 1 million d'espèces menacées par une espèce de con.
En 1975... Question posée à Goscinny, le créateur d'Astérix. Qu'est-ce qui fait une bonne bande dessinée ? Est-ce que c'est le texte ou l'image ? Réponse.
Si Uderzo avait été absent, je vous aurais peut-être donné des réponses différentes. Je dirais que
Attention à ce que tu vas dire.
Je dirais que le dessin, surtout, a joué.
Bien.
En partie.
En partie seulement.
Oui, enfin, il y a le texte quand même.
Un peu.
J'ai essayé une fois d'écrire une littérature disant qu'il n'était pas axé sur l'humour. Je travaillais dans un hebdomadaire féminin et on m'avait demandé d'écrire une nouvelle, des nouvelles d'amour. Et je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas.
Et alors ?
J'ai pas dépassé la troisième ligne, parce que je ne peux pas. Si j'écris, il faut que j'essaye de faire rire le lecteur. C'est glandulaire, je ne peux pas écrire autrement et je n'ai pas envie de le faire.
Philippe Guéluc, est-ce que c'est glandulaire chez vous aussi, désir de faire rire ?
Ben oui, d'entendre ce grand monsieur, ces paroles d'évangile. Moi, c'est pareil, je ne peux pas faire un truc sérieux. Si, je peux m'enflammer pour une cause, je peux défendre un truc, mais il faudra malgré tout que je trouve une pirouette pour essayer de faire sourire l'auditoire ou le lecteur. Chez moi, évidemment que c'est intimement mêlé. On a essayé de publier que des aphorismes et des phrases du chat, ça n'a plus du tout la même saveur. Quand c'est lui qui le dit, ça fait rire. Parce que quand Obélix parle, ben, ça ne peut pas être de la radio, ça doit être du dessin. Et l'un est-il plus important que l'autre? Non, c'est la rencontre parfaite. Ben, c'est comme, faut se mettre à deux pour faire un enfant. Enfin non, maintenant, il paraît que ça change.
Pas toujours,
on devrait,
mais bon.
On devrait essayer, oh là 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 là, et paf, on y retombe. On veut essayer de dire un truc intelligent et bam, on tombe dans le
mais, politiquement. Mais ce que vous dites, qui est quand même très intelligent, Philippe Guéluque, c'est qu'il semblerait donc que les mots et la parole, pour avoir du poids et être diffusés, doivent être incarnés.
Il me
avec
semble.
Un personnage, Astérix, le chat.
Oui, ou alors il faut un talent littéraire que je n'ai pas. Quand c'est Frédéric Dard qui écrit un San Antonio, ses paroles sont incarnées dans la bouche de Berrurier, de l'inspecteur Pinault ou de San Antonio lui-même. Mais la force de l'écrivain est telle qu'il nous dessine les personnages dans la tête en nous les racontant.
Mais qu'est-ce qui vous a ou qui vous a donné ce goût de l'écriture, Philippe Guéluque? Parce qu'on parlait de Goscinny, mais c'est plutôt Sempé, Ciné ou Reiser qui ont été vos maîtres et qui
Absolument.
Vous ont donné le goût de la BD, ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que alors que la BD belge rayonne de par le monde, vous avez des références très françaises.
Oui, dans le dessin d'humour, mais il y a aussi l'américain Steinberg et il y a l'alsacien Tommy Ungerer. Alors, les gens que vous citiez, Reiser, Ciné, sont des maîtres du mot. Chaval était un maître du mot. Chaval, qui est sans doute le plus grand de tous. Chaval a écrit des textes, des nouvelles qui sont hilarantes et qui sont totalement détachées de ses dessins qui étaient magnifiques. Je pense que c'est tout cela. Et puis, c'est peut-être moi-même, mais à travers mes émerveillements littéraires, j'ai commencé avec le Club des Cinq, j'ai poursuivi avec Dumas, et puis j'ai découvert Vian, Prévert, Cavana, et puis toute cette bande-là, et c'était parti. Et je crois que, sans vouloir se référer précisément à tel ou tel grand auteur, c'est dans sa tête et dans son cœur qu'on bâtit son propre style, qu'on l'affine, et puis quand on est prêt, eh bien, on commence à montrer aux autres.
Donc vous êtes un littéraire?
Oui aussi, mais je suis tellement graphique aussi. Je peux pas, j'ai besoin de m'expliquer. Je fais des dessins muets aussi, et là il n'y a plus de littérature. Donc disons que je suis un homme à tout faire.
Philippe Guéluque, on parle du chat, on va parler de puce. Alors en principe, ça fait pas tout à fait bon ménage, mais la puce à l'oreille de Lucie, moi, je ronronne.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal.
Avez-vous une expression chatoyante à nous suggérer aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, avec Jean Pruvot, nous revenons sur une expression qui ne date pas d'hier. S'en moquer comme de l'an 40. Alors pour ce qui est de se moquer, jusqu'ici on comprend, mais l'an 40, est-ce que vous savez à quoi cette année fait référence? Eh bien c'est la question que j'ai posée au CM1 de Carole Rossignon de l'école Forest à Paris. Des petits qui n'en finissent pas de me surprendre avec leur imagination débordante, jugez plutôt tous les deux.
Ça veut dire bah tu te moques tellement qu'en fait bah t'as plus envie de rigoler en fait.
En 1940, bah c'était la Seconde Guerre mondiale et alors les gens ils se foutaient un petit peu de la guerre parce que eux ils voulaient être tranquilles et pas toujours faire la guerre comme en 14-18.
Pour moi c'est quand t'as 40 ans bah tu t'en fiches, tu restes chez toi et bah tu te moques des autres parce qu'ils travaillent.
Tu te moques de ce qui s'est passé avant toi.
Ça veut dire on se moque parce que t'as rien du tout.
Bah tu te moques tellement que tu te moques que, comme 40 personnes.
Comme c'était la Deuxième Guerre mondiale, après on n'était peut-être pas préparés, du coup on se moque un peu.
Moi je pense que cette expression veut dire que tu te moques des gens qui sont nés en années 40 parce qu'ils sont vieux.
La puce à l'oreille.
Alors Jean, une expression qui ne nous rajeunit pas donc. Est-ce qu'on est retraité à 40 ans?
Ben non, je ne crois pas. Alors est-ce qu'on est vieux quand on est en 1940? Bon, on est plus tout jeune. Mais bon. Mais ça va changer, puis ça fait un moment qu'elle existe, l'expression, donc c'est pas cela. Mais cela dit, tout ce qui a été dit était assez délicieux.
Donc quand on s'en moque comme de l'an 40, on s'en moque complètement.
Oui, c'est ça. Alors là, c'est souvent dans les expressions qu'on ne sait pas du tout. C'est comme être sur son 31, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Pourquoi 31? Pourquoi 40? Alors, tantôt, on cherche quelque chose d'objectif avec le chiffre 40. Et alors, on va dire que...
Oui, il y a plein de théories. Hein,
oui, voilà. Alors qu'il y a eu l'an 1000 qui était supposé être la fin du monde. Mm-hmm. Et on rajoute 40 ans du Christ. En fait, c'est 33, oui. Donc ça ne marche pas tellement.
Oui, c'est un peu
et on disait en 1040 et voilà en 40. Bon, ça ne semble pas très
donc
sérieux.
Ça, c'est la première.
Alors après, vous avez Littré, bon, quand même un grand linguiste, qui disait que les royalistes se moquaient des républicains, donc la première révolution. Vous savez, il y avait l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4. On n'est jamais allé jusqu'à l'an 40. Alors ils s'en moquaient comme de l'an 40 en disant qu'ils n'y seraient jamais arrivés. Bon, pourquoi pas, c'est pas absurde, mais bon, c'est pas non plus extrêmement convaincant. Alors d'autres ont dit, parce que l'expression a été très forte au 19e. Et donc, on dit que c'est l'âge qu'aurait eu Louis XVI quelques jours après avoir perdu la tête.
Bon, alors ça, c'est la théorie d'Alain Rey.
Oui. Alors, bon, pourquoi pas. Moi, j'en étais resté, puisqu'il y avait une expression, si vous voulez, qui était l'Alcoran, bon, ce grand texte religieux. On aurait dit que se moquer comme de l'Alcoran qui existait aurait été transformé en se moquer comme de l'an 40. Bon, c'est pas...
L'Alcoran, c'est pas le Coran ?
L'Alcoran, c'est le Coran. Al, c'est un article qu'on va retrouver dans Algèbre.
D'accord, donc se moquer de l'Alcoran. Se moquer de l'Alcoran, c'est donc se moquer du Coran.
Du Coran, voilà.
Du texte sacré.
Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est possible dans un pays qui était très catholique et pas très ouvert. Bon, maintenant, donc si vous voulez, les interprétations des enfants ne sont pas bonnes, mais on ne peut pas leur en offrir une qui soit absolument juste. C'est peut-être un mélange de tout ça.
Alors, s'en moquer comme l'an 40, ça n'a rien à voir avec repartir comme en 40.
Ah oui, non, c'est pas pareil. C'est repartir à la guerre, c'est y aller joyeusement comme on y était parti en 14.
Exactement, en fait, c'était repartir comme en 14. Voilà. Cette expression, elle vient de là. Et c'était pour parler de l'ardeur, c'était un clin d'œil ironique aux soldats de la guerre 14 qui partaient un peu la fleur au fusil.
Oui.
Et qui, les pauvres, donc, voilà, ne sont pas tous revenus de cette grande boucherie.
Alors, les étrangers ont d'autres expressions. C'est totalement autre chose. Chacun y va de sa... Je pense à l'Espagne qui dit « ça n'a pas plus d'importance, c'est comme un pépin de concombre, un radis, un sifflet. » Bon, alors, là, on voit bien que ça n'a pas d'importance. Bon, il y a encore... en Angleterre, mais peut-être vous la connaissez.
Ne pas donner le cul d'un rat, tout
voilà.
À fait.
Not to give a rat's ass. Ouais, y a un peu
ça
mon
ne
accent.
Vaut rien, ça n'a aucune importance, comme aux États-Unis, où on dit...
Être incapable de s'en soucier moins. Je trouve ça assez joli, quoi. On ne peut pas s'en soucier moins.
Ou avec ça et un dollar, je m'achète un café pour dire que ça ne vaut vraiment rien du tout.
Bon, alors, parfois en Espagne, ça va plus simple. Passo, je m'en fous.
Alors, quand on s'en moque comme de l'an 40, on s'en moque comme de sa première chemise. On s'en tamponne.
Eh ben oui.
On se dit aussi, je m'en bats l'œil.
Oui, ça c'est mieux quand même.
Eh bien, merci Jean. J'espère que vous reviendrez pour un tour et non pas comme en 40 dans une prochaine puce. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent suivre votre activité trépidante sur votre site jeanpruvot.com et que s'ils veulent, ils peuvent aussi réécouter cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site de RFI Savoie. À très bientôt Jean.
Merci beaucoup Lucie.
Au revoir.
Un grand plaisir.
Merci Lucie. Philippe Guéluc, est-ce que c'est une expression utilisée en Belgique puisque vous êtes belge sans moquer comme l'an 40.
Bien sûr,
oui.
Bien sûr. Oui, oui.
Parce qu'il y a quand même des différences d'expression entre la Belgique, il y a des zones d'incompréhension même entre la Belgique et la France.
Tout à l'heure, sur une autre radio, je disais qu'à un moment, arrivant à placer des dessins à gauche et à droite, je m'étais sorti des flûtes.
Ah
et
oui.
Tout le monde est resté comme ça. Nous, se sortir des flûtes, c'est s'en sortir. Voilà.
Et alors, en tout cas, vous aimez ces expressions populaires puisque vous avez pendant longtemps sur TV5 Monde, été Monsieur Dictionnaire.
Non, j'étais plutôt le faire-valoir de Monsieur Dictionnaire. Monsieur Dictionnaire, c'est Jacques Mercier, qui est notre Jean Pruvot en Belgique, qui connaît la langue sur le bout des doigts et qui nous éclairait chaque jour d'une explication d'une expression peu connue.
Merci Philippe Guéluc. La rumba du chat vient de sortir chez Casterman de vive voix, Pascal Paradou, Véronique Durand, Ludivine Amado. On se retrouve demain.